Mémoire d'un jeune homme rangé, troisième partie. Tout ceci se passait à 9h30 du matin. Daniel se fit envoyer la chemise géante à son domicile et se rendit auprès de son père. Monsieur Henri, dans son bureau, causait avec l'oncle Émile, qui passait par là ce matin. En apercevant Daniel, monsieur Henri dit à l'oncle « Permets que je te présente le haut patron, le commanditaire de la maison. » « Monsieur Daniel Henri. Monsieur vient de temps en temps au magasin pour voir si nous travaillons bien et si tout va suivant son idée. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous asseoir, monsieur le comte? On va vous montrer les livres de la maison. Par quoi voulez-vous que l'on commence ?» Allons, il n'était pas de trop méchante humeur. Daniel, qui ne l'avait pas encore vu le matin, l'embrassa sur le front. Puis il s'en alla du côté de son bureau. En traversant le bureau du comptable, il vit que M. Fantin n'était pas là. « Daniel !» cria M. Henri. Il revint près de son père. « Comme M. Fantin ne vient pas ces jours-ci, oui, il a une angine. Je vais te donner du travail pour cet après-midi. Tu vas me faire 3 copies de ces listes d'échantillons et tu me les enverras aux clients que je te dirai les noms. « C'est que... papa... »« Qu'est-ce qu'il fait, papa ?»« C'est que... papa... J'ai absolument promis à M. Voreau d'aller aujourd'hui à Bernainvilliers. »« Comment ? Mais tu en sors de Bernainvilliers. Qu'est-ce que tu as maintenant avec ces gens-là ?» Daniel rougit. Puis un gracieux petit mensonge lui surgit dans l'esprit à point nommé. « Monsieur Voreau a beaucoup insisté pour que je vienne aujourd'hui, parce qu'il doit me présenter à un de ses amis, un professeur, qui me recommandera au moment des examens. »«
C'est tout de même curieux que je ne peux compter sur ce jeune homme pour aucune chose que j'ai besoin, » dit monsieur Henri.
« Quand est-ce que tu vas un peu songer à te rendre utile à ton père ?»«
Si tu veux, je viendrai demain de bonne heure, et je copierai ses listes. »«
Demain, monsieur ?» « Non, l'année prochaine. Je vous assure que ça sera grandement temps. Je regrette infiniment, monsieur. On fera son possible pour s'organiser en se passant de vos estimables services. »
Il s'inclina profondément. Puis il se mit à signer des papiers. Daniel s'esquiva en douceur, en marchant de côté pour ne pas élargir l'entrebâillement de la porte. Il gagna son petit bureau. Il s'installa sur son fauteuil, devant le vieux bureau recouvert de moleskine usée, puis, après avoir bâillé 2 ou 3 fois, il expédia quelques affaires courantes, telles que l'enfoncement du crin sous la moleskine au moyen d'un porte-plume introduit dans un accroc, ou bien l'agrandissement d'une tache d'encre sur le mufle en cuivre du lion de l'encrier. Il prit une feuille de papier à en-tête où il écrivit « J'aime Berthe », en anglaise cursive, puis en imitation de ronde. Il déchira cette feuille compromettante et en prit une autre sur laquelle il écrivit « Monsieur et Madame Henri ont l'honneur de vous faire part du mariage de Monsieur Daniel Henri avec Mademoiselle Berthe Voreau ». Il ajouta à côté de son nom « Docteur en droit ». Puis il biffa cette indication parce que ça aurait été trop long d'attendre son doctorat.
« Daniel, on rentre déjeuner !»
Daniel froisse précipitamment son projet de faire part et le jette dans le panier à papier. Il retrouve son père au milieu du magasin. Monsieur Henri demande à un employé « Est-ce qu'on est venu de chez Arduin ?»«
Non, monsieur, pas encore. »«
Non, non, et alors vous allez attendre tranquillement en vous croisant les bras ?» « Quand est-ce donc que vous aurez pour 2 sous d'initiative? Vous allez me faire le plaisir de vous y rendre tout de suite. Vous déjeunerez quand vous pourrez. Et si vous n'avez pas le temps, vous déjeunerez par cœur. Ça sera une leçon pour vous, pour avoir un peu de tête. Et d'initiative !»
ajoute encore M. Henri, très content d'avoir trouvé ce mot.
« Bon, pense Daniel, je ne suis pas le seul à être engueulé. »
Ils sortent tous deux dans la rue Lafayette. Daniel, qui est un peu plus grand que son père, se voûte légèrement pour ne pas le dépasser.
Eh bien, tu ne nous racontes rien de ta visite à Bernainvilliers ?
Dit, quand on s'est mis à table, Madame Henri.
Est-ce qu'ils sont bien installés ?
Magnifiquement, dit Daniel.
Il paraît qu'ils s'y trouvent bien, dit Monsieur Henri, puisqu'ils retournent encore aujourd'hui.
Je te promets, maman, que c'est un autre pays que le Vésiné.
Ça doit être plus campagne, dit Madame Henri.
Et si tu voyais la différence des villas, il y a des jardins très grands, et des arbres au moins, et c'est beaucoup moins cher comme location qu'au Vésiné. Voilà ce qui s'appelle une villégiature.
Tu ne veux pourtant pas, dit Madame Henri, que nous quittions le Vésiné, où nous allons depuis 18 ans.
Laisse-le donc parler, dit Monsieur Henri.
Lui, tu comprends, ça lui sera complètement égal si je fais chaque jour 1 heure en plus de chemin de fer pour aller au magasin.
Tu exagères, papa. Ça ne fait jamais 1 heure en plus. Combien mets-tu pour aller au Vésiné ?
35 minutes.
Sais-tu combien mettent les express pour aller à Bernainvilliers ? 3 quarts d'heure. Et la gare du Nord est bien plus avantageuse pour toi que la gare Saint-Lazare. C'est à 5 minutes du magasin.
Il s'avance un peu en évaluant le trajet de Paris à Bernainvilliers à 3 quarts d'heure.
Tous les trains mettent un peu plus 1 heure, à l'exception d'un seul qui fait la distance en 49 minutes, un train de luxe qui vient de Lille 2 fois par semaine et passe à 4 heures du matin à Bernainvilliers, où, dit la note W de l'indicateur, il descend des voyageurs sans en prendre. Cependant, Daniel s'enhardit, car la résistance est plus faible qu'il n'aurait cru.
Madame Voreau m'a dit qu'elle serait enchantée que vous veniez.
Est-ce que ce sont des gens à fréquenter pour nous ? Dit Monsieur Henri. Ils sont trop huppés.
Monsieur Voreau, dit Daniel, m'a répété je ne sais combien de fois qu'il avait beaucoup de sympathie pour toi et que tu étais un négociant de premier ordre.
Je n'ai rien à dire contre lui, affirme énergiquement Monsieur Voreau. C'est un homme tout ce qu'il y a d'intelligent.
Enfin, dit Daniel, qu'est-ce que je risque de visiter cet après-midi quelques villas, puisque je vais là-bas? Je verrai ce qu'il y a de bien, et vous n'aurez plus qu'à choisir.
Ils ne répondirent rien.
Madame Henri ne s'engage pas sans la parole de Monsieur Henri, et Monsieur Henri ne s'engage pas inutilement.
Mais Daniel sent que l'affaire est en bonne voie.
Chapitre 13. Maison à louer.
Daniel, pendant que le train l'emmenait à Bernainvilliers, éprouva vraiment une grande joie à la pensée de revoir Berthe. Il avait besoin d'elle maintenant, besoin de la voir, de l'entendre parler. Il eut, en pensant à sa voix, une espèce de vertige, provoqué peut-être en partie par les émanations de charbon qui s'échappaient de la locomotive. Un instant, il pensa aussi à André Bardot. Était-ce vrai qu'elle avait flirté pendant 1 an avec André ? D'après Julius, André prétendait être aimé d'elle. Non, il n'était pas possible qu'elle eût aimé quelqu'un avant Daniel. Le bonheur de Daniel était encore trop violent, pas assez paisible pour être troublé par de tels soupçons. Son besoin de tranquillité le poussait à écarter de son esprit les dangers réels. Il ne commençait à être inquiet que lorsqu'il avait touché la quiétude. Alors il voyait autour de lui des périls imaginaires qui menaçaient la cassette de son bonheur parfait. Il était, ce jour-là, tout à la joie d'aller vers la fiancée de son choix. Ce n'était plus la force expansive de la vapeur d'eau, mais l'amour de Daniel qui animait la locomotive et entraînait, entre 2 interminables talus, les 14 wagons du direct numéro 124. Et vraiment, avec une telle force motrice, le matériel de la compagnie était inexcusable de ne pas rendre davantage. Quand le train arriva en gare de la seule localité intéressante du territoire français et du monde, Daniel regarda la barrière. Les 2 jeunes filles n'y étaient pas.
Louise Loison lui avait pourtant bien répété qu'elle serait à la gare à l'arrivée du train. Il descendit du wagon, sortit de la gare, personne sur la place. Est-ce qu'il ne s'était pas trompé de train? Louise avait pourtant bien parlé du train de 3 heures. Mais c'était peut-être le train qui arrivait à 3 heures, et non celui qui partait de Paris à 7 heures-là. Pourquoi ne s'était-on pas expliqué mieux? Gémit Daniel. C'est toujours comme ça. On se quitte hâtivement, on se donne des explications sommaires, et l'on s'aperçoit qu'elles ne suffisent pas quand on a perdu contact. Les femmes sont énervantes avec leur légèreté. L'attente est insupportable. Il leur montrerait qu'il n'était pas content. Mais il les aperçut au bout de la rue et courut épanoui à leur rencontre. Il serra la main de Berthe pendant une demi-minute. Il avait toujours peur de ne pas en donner assez. « Eh bien, dit Louise Loison, avez-vous décidé vos parents à louer ici ?»«
À peu près, dit Daniel.
« Commençons notre tournée, dit Louise. Le plus raisonnable serait peut-être d'aller chez Beau, à l'agence de location. » C'était tout à côté, en face de la gare. Ils entrèrent dans une petite boutique où était installé un bureau. Ils virent là une dame maigre, ornée d'un pince-nez, et dont les coins de bouche tombaient un peu. Pour corriger l'expression revêche, et bien nuisible au commerce des locations, que cette conformation donnait à son visage, Madame Beau avait adopté un continuel sourire affable. « Dans quel prix voulez-vous mettre ? » dit-elle. Daniel ne répondit rien tout d'abord. Il ne s'était muni chez lui d'aucune indication, et il n'y avait pas d'homme moins renseigné que lui sur les prix des villas, chalets, et d'ailleurs sur les prix de quoi que ce fût. Il ne savait pas quand on devait marchander, se hâtait le plus souvent d'en finir, et était tracassé, une fois le marché conclu, par la crainte de s'être fait voler. Ne sachant que dire à Madame Beau, il se raccrocha éperdument à la vérité, et renonça à l'air assuré et important qu'il avait pris en entrant dans l'agence. Il répondit donc humblement, « Ce n'est pas moi qui dois louer, ce sont mes parents. » « Je voudrais voir ce qu'il y a de bien. J'indiquerai les adresses à mes parents, qui viendront louer définitivement. »« Vous savez au moins combien il vous faut de chambres ?»«
C'est selon, dit Daniel.
Il se pourrait que mon oncle Émile et ma tante Amélie viennent habiter avec nous. Alors il nous faudra 4 chambres. »«
Beau ?» cria Madame Beau.
Une porte s'ouvrit au fond, et Beau parut. Il n'était ni beau ni laid. Ce n'était donc pas sur son propre visage qu'il fallait chercher l'origine de son nom patronymique, qu'il ne méritait ni par acclamation, ni par ironique antiphrase. « Avons-nous les clés du chalet Pilou ?» dit Madame Beau.
« Mais non, dit Beau, puisqu'il est occupé. Madame Pilou est revenue d'hier.
Je vais y conduire ces messieurs et dames. »
« Prends toujours les clés de la villa Mauvezin, puisque c'est sur le chemin. Tu auras meilleur temps de les y mener d'abord, et ils pourront comparer avec le chalet Pilou. »
Ils passèrent devant la villa des Marguerites, dont le nom printanier et les balcons en bois séduisaient beaucoup les âmes juvéniles. Mais elle était humide, paraît-il, mal meublée, et la propriétaire était folle. Puis ils visitèrent la villa Mauvezin, que les propriétaires habitaient toute l'année et louaient pendant 3 mois d'été. Le jardin ne manquait pas d'ombrage. La maison, toute blanche, avait un aspect un peu triste.
« Vous allez voir comme c'est bien meublé !» dit Madame Beau.
Elle ouvrit le vestibule, poussa les volets du salon obscur. Il était encombré de photographies. Les locataires étaient introduits du jour au lendemain au milieu des souvenirs tout chauds d'une famille, comme dans un lit dont on n'a pas changé les draps. Ces gens-là vous louaient pour une saison leur idéal d'art avec les gravures qu'ils avaient choisies pour les panneaux, le culte de leurs parents morts et même celui de leurs animaux défunts. Un épagneul empaillé et mal épousseté était couché en rond au pied d'une console
dans la posture qu'il affectionnait tant. Ils sonnèrent ensuite au chalet Pilou. Et ce fut Madame Pilou elle-même qui vint leur ouvrir. Madame Pilou, la miniaturiste, avec sa haute stature, ses cheveux coupés courts, et qui, malgré ses allures et son détachement d'artiste, passait pour être inexorablement rapia dans l'inventaire de la vaisselle. Le chalet Pilou, en briques, leur parut confortable et convenablement meublé. Le salon était constitué par l'atelier de la propriétaire. La salle à manger était claire, et il y avait une bonne place à l'ombre pour déjeuner dans le jardin, et c'est l'agrément de la campagne. La cuisine était vaste, avec l'eau de la ville. Les chambres du haut étaient plaisantes, bien qu'il y eût un peu trop de rideaux autour des lits. Enfin, Daniel, en examinant à la dérobée les cabinets, vit, non sans plaisir, qu'ils étaient tapissés avec des dessins de journaux amusants. Le chalet Pilou faisait bien l'affaire. Ils redescendirent tous en conférence dans le salon du bas. Sur la cheminée, Uranie, la muse bien connue de l'astronomie, siégeait de profil sur un fauteuil doré qui marquait l'heure, appuyait sa main sur une sphère étoilée et feignait de lire sans relâche, pour n'avoir pas l'air de voler son titre, une belle édition sur bronze d'un traité de cosmographie. Daniel sentit le besoin d'étonner les jeunes filles par son habileté commerciale, et devant Pilou, se mit à dénigrer la maison d'une façon telle que le parti pris s'y voyait de 20 lieues à la ronde. « Enfin, acheva-t-il, je dirai à ma mère de venir visiter la villa, mais je crains bien qu'elle ne lui plaise pas. » Comme il était 5 heures à peine et qu'il ne voulait pas rentrer si tôt, ils allèrent encore visiter une autre maison sur la route de Beauvais. Daniel, le choix de la villa étant à peu près arrêté, n'avait plus qu'à penser à sa bien-aimée. Louise Loison et Madame Beau marchaient devant. Il resta un peu en arrière avec Berthe. Il lui dit « Vous êtes contente que je vienne habiter ici ?» Elle répondit « Oui, très contente. » Il était, lui aussi, bien heureux. Il aurait voulu l'embrasser, la serrer très longtemps dans ses bras. Ils arrivèrent devant la maison de la route de Beauvais. Louise Loison, toujours avisée, jeta un regard dégoûté sur le rez-de-chaussée et dit à Daniel « Je vais toujours voir les chambres du haut avec Madame Beau. Je vous appellerai si ça en vaut la peine. » Il resta donc seul avec Berthe dans le salon à moitié obscur. Il s'approcha d'elle et lui prit la main, sa main nue qui tremblait un peu. Berthe le regarda, les lèvres entr'ouvertes et sans haleine. La pendule de marbre et de cuivre vibra sous son globe de 5 petits coups glacés. Berthe avait les yeux défaillants, les lèvres tendres et douloureuses. L'amour qu'il avait pour elle, l'amour qu'elle avait pour lui, se cherchèrent et se joignirent enfin sur leur bouche unie. Ce baiser, enivrant pendant plusieurs secondes, dura très longtemps. Berthe s'abandonnait, comme épuisé, et Daniel, par politesse, ne voulait pas s'en aller le premier. Il prit enfin le prétexte d'un léger bruit à l'étage au-dessus pour relever la tête. Quand ils furent de nouveau sur la route, ils quittèrent Madame Beau. On lui promit une prompte réponse pour le chalet Pilou. Puis, ils rentrèrent chez Madame Voreau, à qui Daniel présenta les compliments de sa mère. « C'est bientôt l'heure de mon train, » dit Daniel à Berthe, comme il se promenait dans une allée. « Mais vous restez dîner, » dit-elle impérieusement. « Madame, votre mère ne m'a rien dit. »«
Moi, je vous le dis, » répondit-elle. « Attendez. »
Elle s'en alla près de sa mère et se mit à causer à voix basse avec elle. Daniel était très gêné parce que les négociations se prolongeaient et qu'il y avait probablement du tirage. À la fin, Madame Voreau, tout en continuant de sourire de loin au jeune homme, fit à Berthe un petit signe d'acquiescement lassé. Berthe revint à Daniel. « Vous restez dîner. » Il s'inclina. Sa fierté n'était plus en jeu.
L'amour a droit à tous les sacrifices. C'est du moins ce qui est entendu avec les dames, qui sont, en somme, les juges naturels de notre dignité. Le dîner fut sensiblement moins somptueux que celui de la veille. Le domestique servit à table en simple gilet de livrée. La grand-mère était en petite tenue de molleton brun. Il n'y avait qu'un poulet, des petits pois et le bœuf de la soupe. Madame Voreau s'excusa de leur goût grossier. « On sert le bouilli parce que mon mari s'en régale. » Elle n'ajouta pas que ça faisait un plat de plus. Un plume-cake de renfort, le seul entremets qu'on put trouver dans le pays, arriva un peu tard, apporté par le groom, au moment où tout le monde allait se rattraper sur le fromage. Chapitre 14. On s'installe. On avait bien recommandé à Daniel, chez les Voreau, d'amener Madame Henri le plus tôt possible pour louer. Il était bien entendu qu'elle resterait dîner. Daniel, qui connaissait sa mère, affirma qu'elle ne voudrait pas rentrer trop tard à Paris. Il fut donc convenu, en tout cas, que les Henri dîneraient chez les Voreau le jour de l'emménagement. Madame Beau avait parlé de 1 800 francs pour le chalet Pilou, mais il était probable que la propriétaire ferait une concession. Quand Madame Henri, accompagnée de Daniel, arriva pour louer le dimanche suivant, elle demanda à Madame Pilou, après avoir examiné la maison, « Voyons, quel est votre tout dernier prix ?» Madame Pilou regarda délibérément Madame Henri et dit « Le tout dernier prix, ce sera 1 600 francs, madame. » Madame Henri eut alors un air complètement désabusé et salua Madame Pilou comme si elle se disposait à la quitter pour la vie. Daniel crut l'affaire enterrée et tomba dans un sombre désespoir. Madame Pilou, au moment où Madame Henri descendait le perron, dit d'une voix tranquille et les yeux baissés « Voyons, madame, il n'y a donc pas moyen de s'arranger ?»« Pas dans ces prix-là, en tout cas, » dit Madame Henri. « Quel prix voulez-vous donc mettre ?»« Nous sommes trop loin de compte, » dit Madame Henri. « Mon mari m'a défendu de passer 1 000 francs. » Ce fut le tour de Madame Pilou de prendre une physionomie glaciale et de nouveau recommença la cérémonie des adieux éternels. Comme Madame Henri passait la grille, Madame Pilou répéta « Enfin, madame, vous réfléchirez. »«
C'est tout réfléchi, » dit Madame Henri.
« Vous n'êtes pas très raisonnable. »«
Mais qu'est-ce que vous voulez ?» dit Madame Henri. « Quand on ne peut pas dépasser un chiffre. »
« Parce que, poursuivit Madame Pilou, j'aurais pu, de mon côté, faire une petite concession, vous laisser la maison à 1 400. »
Elles finirent par tomber d'accord à 1 250, après plusieurs séparations définitives, Madame Pilou faisant promettre à Madame Henri de ne pas dire le prix dans le pays, et Madame Henri affirmant qu'elle ne révélerait pas le chiffre exact à son mari, et qu'elle paierait les 250 francs supplémentaires sur ses économies. On alla ensuite faire une visite à Madame Voreau, qui, ce dimanche-là, recevait une nombreuse compagnie. Daniel pénétra gravement dans le jardin avec Madame Henri, et, modèle de piété filiale, ne lâcha le bras de sa mère qu'après avoir été salué 5 à 6 groupes, et lorsqu'il l'eut assise sur un fauteuil d'osier, avec autant de précaution que si elle eût été âgée de 85 ans et complètement infirme. Berthe était entourée de plusieurs amis que Daniel ne connaissait pas encore, et dont 3 au moins, à en juger par le regard obstiné qu'elles attachèrent sur le jeune homme, avaient déjà été mises au courant du secret de son cœur. Daniel, de retour à Paris avec sa mère, passa la soirée en famille. La sœur de Madame Henri, la tante Amélie, dînait là avec l'oncle Émile. C'était un ménage sans enfants. L'oncle Émile avait 48 ans. Il était petit, noir, remuant. Monsieur Henri aimait à raconter à son fils les débuts de son existence, et qu'à 12 ans, il avait fini l'école et gagné sa vie dans la confection, à Nancy. Mais l'oncle Émile le battait encore sur ce terrain. À 9 ans et demi, il était allé tout seul à pied de Sarreguemines au Havre, affirmait-il avec un léger accent alsacien qui n'était pas sans justifier ses assertions, au moins en ce qui concernait le point de départ de ce fameux voyage. Tels étaient les exemples que l'on soumettait quotidiennement aux méditations de l'étudiant improductif. D'autre part, au café Drum, où l'oncle Émile faisait son piquet, il parlait volontiers de son neveu Daniel, un sujet numéro 1. Il était bien juste que Daniel usurpât un peu de prestige aux yeux de son père et de son oncle, car ceux-ci l'avaient assez ébloui pendant les 8 premières années de sa vie. À cette époque primitive, où la force physique était à ses yeux la plus glorieuse, il considérait son papa, qui le portait si facilement sur ses épaules, comme l'homme le plus fort du monde, et l'oncle Émile, qui soulevait une chaise avec le petit doigt, comme le deuxième plus fort. Plus tard, l'oncle Émile l'étonna surtout parce qu'il sifflait bien, parce qu'il fredonnait tous les airs de café-concert, et parce qu'il était capable de parler très longtemps avec un petit bout de cigarette collé à sa lèvre inférieure. L'oncle Émile passait pour un brillant causeur. Nul n'employait plus à propos des locutions comme « ça fait la rue Michel » ou « le malin de la rue de la Plume ». Et c'est lui qui, 2 mois à peine après qu'elle eut été lancée, apporta dans la famille Henri la plaisanterie « on dirait du veau » qui fut conservée très longtemps après qu'elle fut tombée, partout ailleurs, en désuétude. Le départ pour Bernainvilliers avait été fixé au mercredi suivant. L'oncle Émile et la tante Amélie ne viendraient qu'une semaine après. On commanda, pour le mardi, une voiture de déménagement. Bien que le chalet Pilou fût meublé, Madame Henri emportait un certain nombre de meubles, sans lesquels elle ne se déplaçait pas. Car un vieux ménage n'est pas comme ces jeunes ménages qui manquent de tout et ne sont pas organisés. Le ménage Henri s'était, en vieillissant, embarrassé d'habitudes impérieuses et encombré d'objets nécessaires. Le mardi, à 11 heures, 2 déménageurs, qui ressemblaient à des voleurs d'enfants, firent leur apparition dans l'appartement de la rue Lafayette. Le plus rassurant avait une veste de forçat et un bonnet rouge. La voiture partit le soir pour Bernainvilliers, 48 kilomètres, où elle devait arriver le lendemain dans l'après-midi. La famille coucha ce soir-là sur ce qui restait de matelas. Les 2 bonnes, Henriette et Lina, partirent le mercredi matin de bonne heure, non sans être remontées 2 fois pour prendre des objets oubliés, les clés des malles, qu'elles cherchaient avec des cris effarés et des rires inutiles. Le thème des opérations portait que le père de Daniel n'arriverait que vers 6 heures, après la fermeture du magasin. Daniel et sa mère trouvèrent, à 3 heures, à la gare de Bernainvilliers, Berthe Voreau et Louise Loison, venues donner un coup de main à l'emménagement. « Soi-disant, » confia Louise à l'oreille de Daniel. La vérité vraie était que ça les amusait beaucoup d'aider Madame Henri. Quand ils furent au tournant de la route, ils aperçurent, à la hauteur du chalet Pilou, la voiture de déménagement et un canapé de salon, tout dépaysé, au milieu de la grande route. C'était un petit canapé qu'on emmenait à chaque villégiature, parce que M. Henri l'avait choisi pour y faire sa sieste. Recouvert à neuf, habitué à vivre au milieu du luxe, sous un lustre de verre et à côté du piano, il devait subir, chaque année, dans la voiture, le compagnonnage de la planche à repasser et des ustensiles de cuisine. Ils virent les voleurs d'enfants, courbés l'un sous un sommier, l'autre sous un panier de linge. On eût dit maintenant des cambrioleurs repentis, rapportant tristement leur butin dans la villa mise au pillage. Daniel se trouva seul avec Berthe plusieurs fois pendant l'emménagement. Une fois à la cuisine, une fois dans l'escalier, une autre fois au deuxième étage dans une chambre mansardée. Il ne l'embrassait plus que sur les lèvres. Parfois, cependant, comme il avait le souffle court et comme, ainsi que beaucoup de jeunes gens, il ne savait pas respirer en embrassant les dames, il relevait la tête dans un transport d'extase et posait ensuite les lèvres sur le cou de sa bien-aimée, très doucement, pour reprendre haleine. On rentra chez les Voreaux vers 7 heures, pour dîner. La présentation de Monsieur Henri à la grand-mère de Berthe fut le signal d'une débauche d'érudition sur les alliances de la famille Henri avec d'autres familles que connaissait la famille Voreau. En se mettant à table, Daniel s'aperçut, non sans une certaine inquiétude, que son père était, ce jour-là, en humeur de causer. Aussi engagea-t-il une conversation particulière, animée, avec Louise Loison, afin qu'il n'eût pas l'air de donner au discours paternel l'ombre d'une approbation. Il se rassura cependant au milieu du dîner, quand il vit que M. Voreau riait franchement aux plaisanteries de M. Henri. Vers 9h30, on parla de rentrer se coucher. Mais M. Henri, pressé par le train, n'avait pas pris à Paris de journal du soir. M. Voreau lui proposa de l'accompagner jusqu'à la gare. La marchande était fermée à 7 heures, mais sûrement l'employé aurait la clé des journaux. Madame Henri, très fatiguée, rentra directement avec Daniel. Daniel avait dit à Berthe « Je vais parler à maman de mes projets ». Il se donna un peu de répit jusqu'au bec de gaz qui marquait le tournant de la route. Arrivé là, il décida qu'il parlerait certainement quand il arriverait à l'autre réverbère. Ce réverbère atteint, il estima que rien ne pressait et qu'il valait même mieux attendre une autre occasion. Il savourait à peine la joie de cet ajournement qu'une voix intérieure le rudoya. « Quand parleras-tu si tu n'oses pas maintenant ?» Il dit alors à sa mère, et le cœur battant un peu, « Ça serait drôle tout de même si je me mariais avec la petite Voreau. » Madame Henri eut un petit rire, sans grande portée. « Ça m'irait assez de l'épouser, » dit Daniel d'un air dégagé. « Elle est assez gentille. »« Il faudrait d'abord qu'elle veuille de toi. » Le cœur de Daniel battit plus fort. « Je crois qu'elle voudrait bien de moi. »«
Elle te l'a dit ?»
demanda Madame Henri, non sans curiosité.
« Oui, » dit Daniel, « mais ne le dit à personne, pas même à papa. »
On était arrivé à la grille du chalet Pilou.
« Hé, hé !» dit Madame Henri. « Tu vas bien. Pense donc un peu à finir ton doctorat, » ajouta-t-elle.
Chapitre 15. À cheval. À partir du jour où il fut installé à la campagne, commença pour le jeune Daniel une vie amoureuse et monotone. Son examen approchait. Il passait la matinée dans sa chambre, la fenêtre ouverte sur le beau temps, et lisait un gros livre de droit de 832 pages. Mais ses yeux suivaient les lignes, tout seul, comme un docile attelage dont le conducteur est resté à boire au tournant de la route. Daniel, soudain, s'apercevait qu'il ne lisait plus. Il reprenait à haute voix les pages parcourues, appuyant sur certaines phrases avec une inutile énergie. Le son des mots passait dans sa tête comme dans un tonneau sans fond. La verdure, au dehors, était désœuvrée. Si les arbres remuaient, c'est qu'il eût été plus fatigant de résister à la brise, qui tenait à agiter doucement leurs feuilles. Quand Daniel était en meilleure disposition et qu'il arrivait à bien comprendre une question de droit, la subtilité de son esprit le comblait d'aise, et il ne lisait pas plus avant.
il préférait se promener dans sa chambre en répondant d'avance, victorieusement, aux examinateurs qui l'interrogeaient précisément sur cette question. Ces messieurs étant à Paris pour les affaires, il déjeune rapidement avec sa mère et sa tante. Puis, il s'en va chez les Voreaux. Il faut qu'il voie Berthe tous les jours. Il fait son possible pour ne pas se presser, afin de leur laisser le temps de sortir de table. Mais il ne parvient jamais à arriver assez tard. Il les aperçoit depuis la grille, en train de déjeuner dans le jardin. Madame Voreau, qu'il voit de profil, fait certainement, la tête droite et les lèvres minces, des remarques désobligeantes sur son assiduité. Daniel, alors, répond à ces paroles supposées en sifflotant cavalièrement et en envoyant des coups de canne vigoureux sur les branches. Il se donne l'air de traverser le jardin et de s'arrêter simplement, en passant près de ces gens, sans attacher d'importance à cette visite. Il y reste jusqu'à 5 heures. Il était, la plupart du temps, plein de maussaderies d'être obligé de subir la surveillance de Madame Voreau. Une bonne partie de l'après-midi se passe à chercher les moyens d'être seul avec Berthe. Quand il a saisi un prétexte pour entrer un instant dans la maison avec les deux jeunes filles, il rejoint sa bien-aimée dans le petit salon et l'embrasse hâtivement. Dans cette chasse au baiser, il n'a, en fait, de joie précise que celle d'inscrire au tableau le plus de baisers possible. Quelques semaines auparavant, il n'eût pas rêvé d'autre béatitude que de contempler, dans un jardin paisible, une bien-aimée qu'il eût aimée. Mais c'est à peine maintenant s'il regardait Berthe, et il ne jouissait pas de sa voix claire et de ses gestes gracieux. Ce genre de plaisir était passé, dépassé. Ce qu'il voulait maintenant, c'était se trouver seul avec elle et l'embrasser. Il n'avait pas encore pensé à désirer autre chose. Il ne considérait pas sa bien-aimée comme une femme. Cependant, les quelques heures qu'il passait auprès d'elle l'énervaient sans qu'il s'en doutât. Et quand il rentrait chez lui, entre 5 et 6, à l'heure où sa mère et sa tante étaient parties pour la promenade, il se sentait un peu troublé en voyant Lina, une blonde assez forte, laver les carreaux de sa cuisine. Il entrait auprès d'elle et lui posait une question, au hasard, d'une voix altérée. « Est-il venu une lettre pour moi ?» Parfois, il s'enhardissait jusqu'à plaisanter. « Tiens, » disait-il, en la voyant à 4 pattes, « on pourrait jouer à saute-mouton ?» De sang-froid, il n'eût point envisagé la possibilité d'une aventure avec la bonne. Il lui plaisait d'avancer un bras timide vers l'engrenage du hasard pour être entraîné, malgré lui, aux conséquences les plus fatales. Mais la bonne répondait à peine. Il montait alors dans sa chambre et ne travaillait pas. Aussi résolut-il de faire un peu d'exercice à ces heures-là. Il prit 12 cachets de manège. Il y avait, à Bernainvilliers, une succursale du grand manège Sornet. Elle était dirigée par un grand jeune homme, au teint un peu cuit, aux cheveux blonds coupés à l'ordonnance et en pointe sur le front, et qui portait sur les joues de très courtes pattes de lapin. On l'appelait l'écuyer, ou Monsieur Adrien. C'était un ancien sous-officier. Il répétait fréquemment qu'il avait été 2e sur 75 à un examen de cavalerie de tout le corps d'armée. Il sifflait, entre ses dents, de petits airs vifs et lisait des lettres sur du papier bleu ciel que lui envoyait sa bonne amie. Daniel, préférant sortir avec l'écuyer, prit des cachets de promenades accompagnés. Le jour de sa 4e sortie, il se rend à l'écurie vers 6 heures. Monsieur Adrien n'est pas là, mais il ne sera pas long. Daniel tend la main à Alfred, le palefrenier boiteux, parce qu'il lui a donné la main une fois et qu'il n'a pas osé cesser. Il s'en console en pensant que c'est peut-être habile et qu'Alfred, plus familier, le renseignera mieux sur les chevaux.
Il y a 4 chevaux de selle dans l'écurie. Aucun d'eux n'assure à Daniel une sécurité parfaite. Baba, le petit cheval entier, est très paisible, à condition qu'on ne rencontre pas de jument. Page, le vieux pur sang, bute. Et Mouche a peur du chemin de fer. Daniel préfère Croumire, qui trottine, mais c'est là un défaut auquel on se résigne. S'il est gênant, il n'est pas dangereux. « Il faudra me sceller Croumire, » lui dit-il. « Vous ne pouvez pas monter Croumire aujourd'hui, » dit le palefrenier en s'en allant au fond de l'écurie, où il remue des pelles et de vagues seaux de bois.
« Pourquoi donc ?» dit Daniel.
« Croumire a la migraine, » dit Alfred. Daniel n'aime pas qu'on plaisante quand sa vie est en jeu. Il attend un instant pour laisser passer l'humeur ironique du palefrenier. Puis il répète. « Voyons, sérieusement, pourquoi est-ce que je ne peux pas monter Croumire ?» Alfred ne juge pas utile de répondre tout de suite. Il est en train d'étendre une couverture sur le dos de la jument de voiture qui tousse. « Croumire est malade ?» demande Daniel d'une voix douce. « Il est blessé au garrot, » consent à dire Alfred. Puis il ajoute d'un ton décisif « Vous monterez Page. » Page est un vieux pur sang alezan de 22 ans. Mais ce n'est pas son âge qui déplaît à Daniel. « Est-ce que vous ne m'avez pas dit qu'il butait ?»«
Mais non !»
dit le palefrenier en haussant les épaules. « C'est que je n'aime pas les chevaux qui butent, » dit Daniel décidé. « C'est très dangereux, et je ne veux rien savoir pour risquer de le couronner. » Il emploie volontiers avec le palefrenier et avec l'écuyer l'expression « je ne veux rien savoir ». Il ne l'emploie pas avec une aisance parfaite.
« Alors vous montrez Mouche ?» dit le palefrenier en désignant la croupe d'une jument baie.
« Elle est un peu chaude, » dit Daniel.
« Elle ?» dit le palefrenier.
« Il n'y a pas plus doux. » Il s'approche de la bête, lui passe la main sous la cuisse et lui donne des tapes amicales. Puis il lui prend le pied de derrière, le pose sur son genou et retire une motte de fumier collée après le fer.
« Elle trotte sec, » dit-il en lâchant le pied.
« Mais ça vaut mieux. » « Dès l'instant que vous faites du trot à l'anglaise. »«
Vous m'avez dit l'autre jour, » dit Daniel, « qu'elle avait peur du chemin de fer. »«
Mais non, » dit Alfred. « Elle danse un peu, vous la tiendrez dans les jambes. » Daniel se décide à prendre Mouche. Il amènera l'écuyer, sans en avoir l'air, à aller du côté de Fleurigny, de façon à ne pas rencontrer de chemin de fer.
« Et qu'est-ce que va monter Monsieur Adrien ?» dit-il encore.
« Lui, » dit Alfred, « il monte Baba, le petit cheval entier. » Daniel ne dit rien. Une pensée le tracasse, mais il a déjà posé beaucoup de questions à Alfred. Il ne peut s'empêcher de dire « Oui, le petit cheval entier, il est bien embêtant, et il saute beaucoup quand il sort avec la jument. » Puis, comme Alfred ne le rassure pas, il se rassure lui-même. Heureusement que Monsieur Adrien le tient bien.
« Oui, il a la main assez dure, » dit Alfred à ses dents.
« Il n'en craint pas un pour la question d'abîmer la gueule au canard. » Monsieur Adrien apparaît, peu après, à l'entrée de l'écurie.
« Vous m'excuserez, » dit-il à Daniel, « j'ai rencontré un ami. » Un ancien 28 jours avec qui j'ai été boire un verre.
« Alfred, » dit Monsieur Adrien, « avez-vous scellé Page pour monsieur ?»«
C'est que, » dit Daniel, « j'aimerais mieux monter la jument. »«
À votre idée, » dit Monsieur Adrien, « est-ce que Croumire est toujours à vif sur le dos ?» Il s'approche de Croumire, dont il touche la plaie du bout du doigt. Croumire fronce fortement sa peau autour de la blessure, frappe le sol avec la pointe de son sabot de devant et remue sa forte tête. La chaîne de son licol racle l'anneau de fer avec un bruit violent.
« Ce sera long à reformer la croûte, » dit Monsieur Adrien en sortant de la stalle.
Cependant, Alfred, ayant scellé Mouche, la sortit dans la cour. Monsieur Adrien reste dans l'écurie pour surveiller le scellage de Baba. Daniel en profite pour monter à cheval, autrement que par principe, car il a une peine infinie à soulever son pied jusqu'à l'étrier. Il amène tout doucement Mouche près d'un banc et s'installe, sans trop de peine, sur le dos de la bête. Les étriers sont à peu près justes. L'étrivière gauche est peut-être un peu moins longue, mais Daniel s'y résigne. Monsieur Adrien sort de l'écurie avec Baba et se met en selle. Puis il examine Daniel.
« Vous n'emportez pas votre stick ?»
Il l'a oublié dans l'écurie. Il faut redescendre et, sous les yeux de Monsieur Adrien, remonter à cheval par principe. L'étrier se trouve terriblement haut, car pour avoir moins de chances de le déchausser au galop, il monte avec des étrivières courtes. De plus, Mouche ne met aucune complaisance à favoriser l'opération. Elle s'acharne à tourner en rond.
« Tenez-lui sa jument !» dit Monsieur Adrien à Alfred.
Le boiteux va tenir la jument et pousse Daniel au derrière, en lui disant à mi-voix « Ça vaut un verre !» Ils sortent au pas, dans la grande rue. Daniel a une position impeccable quand on ne marche pas aux allures vives. Au pas, son pied n'est engagé qu'au tiers dans l'étrier, son genou adhère parfaitement à la selle. Il guette les glaces des boutiques pour s'y regarder au passage. Allons, la promenade se passera sans encombre, et l'équitation est un sport bien agréable. Mais voilà qu'un incident imprévu vient émouvoir le jeune cavalier, et par contre-coup, sa monture. Comme on tourne le chemin des platanes, on aperçoit Monsieur Vaureau qui revient de la gare et qui amène avec lui... Qui ? André Bardot. André Bardot, qui s'est vanté auprès de Julius d'avoir flirté pendant un an avec Berthe, et qui prétendait même être aimé d'elle. Daniel, d'émotion, tire sur la bouche de sa jument qui se cabre. Il lâche les rênes et s'accroche au pommeau, pendant que Mouche part à un galop soutenu dans la direction du manège. Elle tourne en galopant à faux et manque de s'étaler sur le pavé de la cour. Puis, Daniel n'a que le temps de baisser la tête, car elle entre brusquement dans l'écurie. Elle gagne sa mangeoire et se met paisiblement à manger son avoine, bien que son mort la gêne dans cette fonction. Daniel saute à terre. Monsieur Adrien, qui l'a suivi, arrive bientôt dans la cour du manège.
« Eh bien, lui crie-t-il, est-ce qu'elle a bien trouvé le chemin pour vous ramener ?»«
Ah, nom de là ! Elle savait bien qui c'est qu'elle avait sur le dos. »
Chapitre 16. Un point obscur. Il était 7 heures quand Daniel quitta le manège pour rentrer dîner. Il prit, par derrière le village, un petit chemin bordé de haies. La campagne, toujours aussi calme et toujours la même, poussait de temps en temps un chant de coq, toujours le même et pas pressé. Daniel, qui n'avait pas faim, marchait à pas lents. Ses pensées tenaient dans sa tête un meeting orageux. Aucune d'elles n'avait encore réussi à s'emparer de la tribune pour dominer le tumulte et faire entendre quelques paroles nettes. André Bardot allait donc dîner chez Berthe? Pourtant, Louise Loison, la seule fois que le nom d'André avait été prononcé, avait dit assez sèchement que les Vaureaux étaient en froid avec ce jeune homme. Quelle altitude faudrait-il avoir le soir quand il rencontrerait André chez les Vaurans? Il n'allait pas régulièrement chez Berthe après le dîner, mais rien au monde n'aurait pu l'empêcher d'y aller ce soir-là. Il voulait savoir. Il ne pensait pas que Berthe eût jamais aimé André Bardot, car il n'avait aucun indice certain pour le croire. Il croyait toujours à l'honnêteté des femmes.
c'est-à-dire qu'il lui semblait difficile qu'une femme pût oublier ses devoirs avec un autre qu'avec lui. Depuis qu'on lui avait parlé du flirt de Berthe et d'André, il ne s'était jamais trouvé en présence de Bardot. Il s'était dit, parfois, que s'il le rencontrait, il se livrerait à des actes violents, voire à un pugilat énergique, qui, dans son imagination, se terminait toujours à son avantage. Mais la proximité de l'ennemi changea sa manière de voir, et il se convainquit facilement que toute manifestation de ce genre eût été ridicule. Daniel n'aimait pas courir de risques. Eût-il 19 chances sur 20 de sortir sans dommage d'une aventure, le peloton des 19 chances favorables ne le rassurait pas, et il reculait devant le vilain aspect de la seule chance contraire. Et pourtant, il tenait énormément à avoir du courage, d'autant plus qu'il était impressionné par les attitudes courageuses que tous ses semblables prenaient autour de lui, et ne s'était jamais demandé si leur belle confiance était vraiment plus solide que celle qu'il affichait lui-même. Un soir, au Moulin Rouge, un de ses amis avait eu, avec un quidam, une altercation très vive, suivie d'un échange de coups de poing. Daniel n'était pas intervenu pour ne pas se mettre 2 contre 1. Son ami ne lui avait parlé de rien, mais il avait dit, en racontant cette histoire à un autre ami, que Daniel avait les foies blancs. Daniel, quand on lui rapporta ce propos, avait ressenti un étrange malaise et s'était disculpé avec des explications interminables. Une autre fois, au casino de Trouville, précisément le soir de ses 17 ans, Daniel servait de cavalier à 2 jeunes filles qu'un jeune homme de son âge s'était mis à regarder impudemment. Daniel avait fait un mouvement pour attaquer le jeune homme qui s'était enfui. Daniel alors s'était mis à sa poursuite, mais il avait bien senti qu'en lui courant après, il ne donnait pas son maximum de vitesse, et il s'en était voulu. Ses souvenirs le gênaient. Même à ses propres yeux, il avait besoin de paraître courageux. Il perdait son temps à ses scrupules, au lieu de s'appliquer simplement à paraître courageux aux yeux des autres. Il dîna rapidement, et sans adresser la parole à ses parents. Il se rendit, après le dîner, jusque chez les Voreau, qui étaient encore à table. Il les aperçut depuis la grille. Il était plus de 8 heures, et il faisait jour encore. André Bardot était assis entre Madame Voreau et Berthe, et parlait, sans animation, à Monsieur Voreau. Daniel, caché par le feuillage, les regarda. On a toujours eu une impression pénible à regarder dîner des gens. Il semble, si on les voit de loin, qu'on n'existe pas pour eux, qu'ils vivent en rond dans un autre univers. Puis encore, quand on s'approche de leur table, quand on trouble le concert de leur voracité ou de leur digestion, quand on subit l'humiliation de se voir offrir un morceau de tarte, de biscuits glacés ou un peu de crème au chocolat. Daniel regardait de loin André Bardot. Il ne le détestait pas. Il considéra sans envie, avec sympathie, sa moustache blonde, longue et fine. Il n'était peut-être pas aussi bête que Daniel l'avait décrété, l'année qu'ils avaient passée ensemble au Vésiné. Alors André avait 20 ans et Daniel 16. Les jeunes gens portent les uns sur les autres de ces jugements hâtifs qu'il est bien dur de réviser plus tard, surtout s'ils ont été défavorables. Et pourtant, de 20 à 25 ans, pensait maintenant Daniel, une intelligence ne peut-elle pas se modifier? Daniel Henry, qui n'aimait pas l'état d'hostilité, sentait naître en lui, à la vue de ce rival, des trésors d'indulgence, de délicatesse, d'altruisme. On apportait le café. Ces messieurs allumaient des cigares. Daniel se décida à se montrer. Il poussa la porte de la grille et s'avança gravement dans l'allée d'entrée. Quand il arriva près de la table, André Bardot se leva en le voyant et lui serra la main avec une politesse et une affabilité qu'il n'avait jamais eues à son égard. Daniel en fut flatté et lui en eut beaucoup de gratitude, car André Bardot l'avait toujours traité un peu comme un gosse. Il lui eût été pénible qu'en présence des Voreaux, il ne lui eût pas marqué une considération suffisante. Berthe l'accueillit avec plus de réserve que les autres soirs, mais Daniel ne lui en voulut point. Si vraiment ce jeune homme lui avait fait la cour, il eût été malséant de se livrer, devant lui, à des démonstrations trop vives. Quant à Louise Loison, elle devait être au courant de quelque chose. Elle semblait en mauvais termes avec André Bardot. Elle dit à Daniel « Quelle drôle d'idée M. Voreau a-t-il eu de nous amener ce raseur à dîner? Ni Berthe ni moi ne pouvons le souffrir. » Mais Daniel, tout à la joie qu'il n'y eut aucun conflit, évitait de voir l'entrée des soupçons et de s'engager dans leurs routes obscures. Il reconduisit André Bardot à la gare avec Berthe Voreau et Louise Loison. Il ressentait pour le jeune homme des élans de sympathie qu'il n'eût pas modérés sans la présence de Berthe et qui le gênait un peu. Mais quand André les quitta, et quand ils revinrent tous les trois par la route déserte et sombre, Berthe s'approcha de Daniel et lui tendit ses lèvres avec une ardeur inaccoutumée, et si vive que Daniel, hors la présence d'André, en ressentit une soudaine angoisse. Puis elle prit sous le sien le bras du jeune homme, et ils s'en allèrent sans rien dire jusqu'à la grille de la maison Voreau. Avant de se séparer, ils s'embrassèrent longuement encore. « Vous m'aimez ?» dit Daniel. « Je vous aime. Vous n'avez jamais aimé que moi ? Je vous le jure. » Il murmura tendrement « Je vous crois. » Le serment de son ami le rassurait pour plusieurs jours. Chapitre 17. Grave résolution. Depuis près de 3 mois qu'il était à Bernainvilliers, Daniel allait chaque après-midi dans le jardin des Voreau, auprès de sa bien-aimée. Il était plus tenu par son bonheur qu'un employé par son bureau. Et parfois, après y être allé de 2 à 5, il était obligé d'y retourner le soir, après son dîner, pour 1 ou 2 heures de nuit de flirt supplémentaire. Cet heureux jeune homme vivait, d'ailleurs, dans une inquiétude perpétuelle. Quand il s'était rassuré sur cette question, « Berthe m'aime-t-elle ?» une autre venait le tracasser. « Est-ce que j'aime Berthe ?» Et il arrivait bien difficilement à se tranquilliser sur ce point. Cette pensée l'obsédait et le torturait plus vivement encore quand il se trouvait seul avec Berthe, quand il l'embrassait en la prenant dans ses bras. Ne l'avait-il pas aimée trop vite, moins par amour d'elle que par un besoin de conquête? Il craignait de se le demander. Le jour où, pour la première fois, au bal des Voreau, Berthe avait tourné ses yeux de son côté, elle lui était apparue très haute et très lointaine. Il était allé à elle, entraîné par le désir de la dominer, par le besoin de se grandir dans cette âme inconnue. Et maintenant qu'il était tout près d'elle, cette âme ne lui paraissait plus qu'un miroir exigu où il se voyait tout petit, où il était réduit à faire de petites mines et de petites grimaces. Mais il ne voulait pas croire que ce serait toujours ainsi. Le miroir s'élargirait peu à peu pour refléter de lui une plus grande image. Ne pas espérer cela c'eût été trop intolérable. C'eût été renoncer à son amour, perdre volontairement des possessions acquises, s'avouer qu'il s'était trompé de chemin, ne garder de sa conquête que le dérisoire butin d'une leçon d'expérience dont il n'était pas encore en état d'apprécier la valeur. Il ne voulait à aucun prix retourner sur ses pas. Aussi, chaque jour, revenait-il chez Berthe à 2 heures, et quand il apercevait depuis la grille sa robe claire,
il avait toujours une petite émotion, qu'il recueillait soigneusement pour se dire « Mais tu vois bien que tu l'aimes !» Quand il arrivait tout près de ces dames, il profitait de ce que Madame Voreau ne le regardait pas pour faire rapidement du bout des lèvres la moue d'un baiser. Berthe répondait par le même geste, presque imperceptible. Cela signifiait qu'il s'aimait toujours. Il se distrayait aussi en se passant des billets doux, avec des prodiges d'astuce et d'audace. Berthe écrivit une fois un billet qu'elle posa dans la corbeille à ouvrage de sa mère. Ce fut leur plus beau trait de témérité. Ce billet contenait ces mots, d'une urgence spéciale, « Je vous adore ». Dès que Madame Voreau les laissait seules, ses déclarations, qu'ils pouvaient alors échanger à satiété, perdaient beaucoup de leur charme. Mais, heureusement pour leur amour, qui avait besoin d'être élevé à la dure, Madame Voreau devint brusquement très sévère et très méfiante. Elle avait mis longtemps à prendre ombrage de l'assiduité de Daniel. Elle avait sans doute, sur ce point, l'optimisme et le besoin de quiétude de beaucoup de mères trahies par leurs filles, de beaucoup de maris trompés qui se refusent, aussi longtemps qu'ils peuvent, à apercevoir le danger.